Partons visiter l'exploitation du lycée agricole d'Aubernais qui vient d'obtenir sa certification pour le passage de son houblon en bio. Les explications de Freddy Merkling, directeur de l'exploitation, au micro de Pascal Marcaggi.
C'est la poudre jaune qui est là-dedans. C'est une poudre qui s'appelle la lipuline.
L'histoire de la bière démarre au Moyen-Âge avec les moines. On suppose que ce sont les moines qui ont, par hasard, certainement découvert qu'en mettant ce genre de choses dans le brassin, ça donne trois choses très particulières. Premièrement, ça mousse. Deuxième chose, aromatiquement, ça donne cette amertume et un goût très particulier. Et troisième chose, c'est que la bière se conserve. Très, très important. D'ailleurs, c'est utilisé en pharmacie.
Le houblon, il a des vertus fongicides et bactériologiques.
Alors, on suppose que la plante développe cette poudre, en théorie, parce que la graine se forme à la base des bractées des feuilles. Là. Et on suppose que la poudre entoure cette graine et la protège contre les bactéries, les virus, les champignons. C'est pour ça qu'on pense que la plante fabrique cette poudre.
Il n'y a que cette plante qui fabrique ce type de
ouais,
choses.
Ouais, ouais.
Étrange plante en forme de cône. Les Romains l'appelaient lupulus, le loup. Ils croyaient que ce cône mangeait sa propre plante. Les Gaulois que nous sommes lui trouvent toujours les vertus qui nous intéressent.
Ça fait dormir.
Là où il ne faut pas se laisser endormir, c'est décidément avec la différence entre le houblon naturel, le houblon bio, et le houblon industriel.
Pour savoir si une bière est faite avec des houblons industrialisés, quand le verre est vide, s'il reste encore un peu de mousse, parce que souvent dans les bières industrialisées, il ne reste pas beaucoup de mousse. Si les auréoles sont concentriques dans le verre vide, c'est industriel. La nature ne fait jamais quelque chose de... Alors, quand vous voyez dans les brasseries, vous avez des gros pots, là, en métal. Vous regardez dedans, c'est une pâte noirâtre absolument infecte. C'est de l'extrait de houblon avec du CO2, oui. Autour du verre, oui. Si les auréoles sont concentriques, c'est systématiquement fait avec des houblons isomérisés.
Isomérisés, entendez deux molécules qui ont la même formule brute, mais une formule développée différente, avant et après transformation. Il y a houblon et houblon avec des vertus peu comparables. C'est un connaisseur qui parle. Freddy Merkling n'est pas avare de son savoir et cela tombe bien. Il dirige l'exploitation agricole du lycée agricole d'Aubernais en Alsace. Les élèves sont entre de bonnes mains. 65 hectares d'un seul tenant, c'est une chance aussi pour cette exploitation. Freddy Merkling est d'autant plus un homme heureux que ça y est, son houblon vient tout juste d'obtenir la certification pour la deuxième année consécutive. L'an prochain, il aura franchi la troisième année nécessaire à sa reconversion en bio.
On est en troisième année de conversion, donc on a la certification de ce matin. Donc l'année prochaine, en 2012, la récolte sera bio. Ouais. On est le premier producteur français de houblon bio. Ouais.
L'exploitation du lycée agricole d'Aubernais, premier producteur français de houblon bio, même si le houblon ne représente pas un marché énorme, voilà qui est positif. La plaine d'Alsace est riche de beaucoup de choses, mais aussi d'un maïs bien envahissant. Allez diable d'ailleurs savoir pourquoi des pesticides sur une telle terre.
Si on arrive à recréer une agriculture performante, on est sur les meilleurs sols de la planète ici. Les leus, ça fait partie des meilleurs sols de la planète. Il n'y a pas mieux que ces sols-là.
Le leus, la roche sédimentaire dite détritique, car composée pour moitié de débris terrestres, bien sûr, les meilleurs. Plus riches, il n'y a pas. D'aucuns vous le diront, le désert du Néguef, c'est du leus. Vous arrosez et tout pousse à nouveau. Alors ici en Alsace, vous pensez, il y a la terre et l'eau.
C'est des limo argilo-calcaires. Il n'y a pas meilleur sol que ça. Toutes les grandes plaines de la planète où il y a des agricultures performantes sont systématiquement ces types de sols. Il y a 17 mètres de leus sous nos pieds là. 17 mètres, ouais. Là-bas, on a un puits de captage pour pomper l'eau. Quand on a creusé le puits, le puissatier avait sorti les carottes. On avait 17 mètres de leus et après, il y a le gravier qui contient la nappe. 17 mètres de sol, c'est extraordinaire.
Par parenthèse, ou s'il fallait en rajouter, il fut un temps où les charrues retournaient la terre raisonnablement.
On travaillait en 10 pouces, en 12 pouces. C'est-à-dire on faisait des charrues qui travaillaient à cette profondeur-là. Ils retournaient très peu. Aujourd'hui, on travaille en 16 pouces, voire 18, 20 pouces.
Comme on dit, à partir d'un certain stade, on attaque la roche-mère. En Alsace, il y a tout de même de la marge.
Ici, on est vraiment dans des très bons sols qu'on peut très bien utiliser. Il faut les entretenir, évidemment. Donc, on a la gestion de la matière organique qui est prépondérante, donc compostage systématique de nos déchets. L'élevage, présent sur l'exploitation, très important. On a 240 taurillons pour le fumier et on va faire deux poulaillers label rouge cet hiver. Donc l'objectif, c'est de créer un maximum de diversité et de produits divers pour justement enrichir cette diversité. L'idée au départ, c'était en 1995 de mener sur cette exploitation un programme d'agriculture durable, dans le sens le plus large possible du terme, avec des aspects sociaux.
deux salariés, un apprenti, l'association La Main Verte d'insertion de personnes en situation de handicap et bien sûr les élèves du lycée agricole.
Vous auriez dû venir mercredi matin pendant qu'il pleuvait, on a coupé 20 tonnes de choux à la main et il y avait 5 élèves avec moi. Et je vous garantis qu'on était trempés jusqu'au slip. Hein. Alors, on en a pris une.
C'était un aspect de la question. Il y a bien sûr aussi les autres.
Les aspects économiques, donc la performance technique, et bien sûr qualitatif, et la performance agroécologique, c'est-à-dire en protégeant le sol, en protégeant l'eau.
L'eau, essentielle même quand elle vous trempe comme une soupe. Important aussi, les haies qui ont été replantées.
Mes prédécesseurs ont commencé à la fin des années 90, de planter des haies. Donc vous en voyez une là. Alors ça c'est une haie de bois noble, merisier, frêne, chêne. L'idée était de voir ce que pouvaient donner des bois nobles exploitables à terme. Au bout là-bas, derrière la houblonnière, vous avez la plus vieille haie. Elle date de 1990. Ça a été fait avec des bois à croissance rapide. L'objectif était effet brise-vent et abri écologique pour la petite faune de plaine. Là, vous avez une haie plantée par Cronenbourg parce qu'il y a une zone de pompage de Cronenbourg qui a été mise en place. Donc, on l'a un peu aidé dans la réalisation. À l'autre bout de l'exploitation, on a encore deux haies. Donc, en fait, les haies sont orientées est-ouest. Ils font partie du couloir de la trame verte.
Pour faire la liaison entre les Vosges et la forêt noire.
Et la forêt du Rhin.
La forêt rhénane, c'est la forêt des deux côtés du Rhin, en français et en Allemagne. Donc, côté français, avec 6 réserves naturelles, dont la forêt d'Offendorf. La forêt noire, c'est juste après les plus de 11 000 km² de forêt en Allemagne donc.
Et nord-sud, on a les bandes vertes. L'objectif est de créer vraiment un écosystème de